Bonjour toi, ça va? Ça va? Ça va, Mickaël?
Ouais, ça va super.
Bien dormi? Mickaël, il y a eu un succès avec...
Ouais, les mails de quotidien, je les défonçais.
Je me mets à lui qu'il passe, mais après le feu d'artifice.
C'est Mickaël!
Sur la main stage.
Mickaël! Oh bah ouais.
Ouais, ouais, c'est lui, les tuiles. Ouais, bah ouais.
En 2022, après deux années de diète musicale due à la pandémie de Covid-19, la communauté métal a enfin retrouvé ses marques dans la petite ville de Clisson en Loire-Atlantique. Cette année, le Hellfest est devenu le plus gros festival de France grâce à une formule inédite et qui ne se reproduira probablement jamais. Une double édition, soit 7 jours de concert, étalés sur 2 week-ends, l'édition du siècle.
Alors ton petit bol, toi.
C'est vrai qu'on a des bols à
titrer. Mais oui, tu sais bien. Vous avez vos petits bols, là.
Ah ben, alors c'est bon, regarde, Jacques.
Non, c'est mon bol.
Non.
Je vais mettre là-bas.
Regarde, faut justement se servir de la belle vaisselle. Ça sert pas assez.
Avec Miguel, on a décidé de vivre l'expérience avec celles et ceux qui font cet incroyable festival. Aujourd'hui, on quitte les coulisses pour se fondre dans la masse du peuple métal. Des êtres pas si étranges que ça, qui mangent des tartines avec du beurre et de la confiture.
C'est pas très très métal, mais c'est pas grave.
Ça, c'est loin des clichés du métal.
Non.
D'un côté, on a de la viande crue, on a du produit d'animaux, on a des aliments qu'on cuit à haute température.
Pour vivre le Hellfest à 100%, bien sûr, il faut dormir sur place. Le festival propose un camping, mais le confort est trop rock'n'roll pour deux vieux darons comme nous. Une autre solution, c'est de dormir chez l'habitant.
Ouh, on va pas se cailler le lait avec des trucs de rien.
Nous, on a trouvé un super plan. Enfin, une super logeuse. C'est Jacqueline. L'intérêt, hormis celui de partager son univers incroyable, c'est de rencontrer d'autres festivaliers, de vrais fans de métal. Et le rituel, chaque matin, au petit-déj, c'est le débrief de la veille.
Hier, ce qu'il fallait pas rater, c'était Créateur.
Ah, Créator.
Ils sont arrivés, ils ont tout défoncé, une setlist de malades. Oh, ça fait du bien.
C'est une bonne série là, pas trop terrible celle-là.
Ouais, ça va, il y a une chanson moyenne tout sur tout le set. Alors que d'habitude, il y a des
Oliver. C'est ça?
Non,
c'est
Satan Israel. Non, Satan
Israel. Mais moi j'aime bien celle-là.
Elle est géniale. Non. On a fait le X Time.
Non, puis il y a un décorum qui est quand même assez jovial et tout ça. Quoi. C'est...
jovial. C'est des gens pendus sur scène, embrochés.
Des cardinaux.
Des cardinaux.
Bah oui, mais c'est mignon.
Tu vois, quelqu'un qui connaît pas métal, il voit juste deux ondes, il fait non, ils sont complètement ouf.
Ouais.
Pourtant, c'est quand même un petit peu kitsch.
À propos du public métal, on parle souvent de communauté. Ce sont les métaleux ou les métalheads. Pour mieux comprendre le phénomène, nous sommes allés rencontrer Corentin Charbonnier, un jeune anthropologue d'une quarantaine d'années.
Le côté morbide, ça fait partie de la culture métal. C'est-à-dire que dès les premiers textes dans le métal, on parlait déjà de la mort. Quoi. En fait, quand tu prends Black Sabbath, au départ, Black Sabbath, ils arrivent à côté des hippies. Les hippies, c'est ouais, peace and love, on va tous s'aimer les uns les autres. Et t'arrives, t'as Black Sabbath, c'est bon, on va crever, il va y avoir une guerre nucléaire. Comme quoi, c'est à 50 ans, c'était déjà pas mal. Et c'est resté, en fait. Parce que le death, clairement, le fond de commerce du death, c'est le morbide, la mort, la putréfaction, les zombies, les machins, le cinéma d'horreur, l'influence des premiers Romero sur la nuit des morts vivants, genre de choses. Donc, ça reste, en fait. Donc t'as un côté vraiment recours au trash qui est très drôle parce que tu sais que ça va choquer tout le monde.
Bon, même s'il ne fait pas trop peur, Corentin ne déroge pas à la règle. Cheveux longs, il est habillé tout en noir avec un t-shirt qui annonce la couleur. Le mot « crève » est écrit en gros sur la poitrine.
Parce qu'il y a un côté où tu peux le foutre à la gueule des gens, quoi. Enfin, clairement, t'as un truc où tu peux exposer « tiens, regarde ce que je fais, regarde ce que j'écoute, regarde ça, ça me fait pas peur, ça fait partie de moi ». Il y a un côté mise en marge, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire bon, on va être comme tout le monde et chercher à s'intégrer, non, on se met en marge. Et c'est un peu la même logique sur Choulon, c'est qu'au départ, parce que le costume attendu dans une société normale, c'est jouer court à peu près bien, et puis après on voit qu'il y a eu un développement des Choulons dans la culture hippie qui a été repris dans les premiers groupes de métal. Moi je suis en entrepôt, hein, je prends l'exemple des Maasai, qui est vachement intéressant. le rite de passage, c'était qu'on se faisait couper les cheveux, raser à la fin de l'adolescence, et que t'avais le droit de revenir dans le groupe que quand tes cheveux avaient repoussé. T'as aussi ce recours-là dans les cultures primitives, tu vois le rapport au cheveux, qui a un rapport de force aussi, de virilité, qui participe à une exposition de soi, donc au départ, oui, c'était ça. Après, clairement, t'as plus la pression des cheveux aujourd'hui. On va pas se mentir, hein, tu vois le profil d'âge qui commence à évoluer, les cheveux longs ils baissent de plus en plus. Hein,
Oui, parce que les mecs ils ont plus de cheveux.
Ouais, à un moment on va pas faire des Vintozen pour tous, c'est-à-dire avoir la boule à zéro et les cheveux longs sur le côté, donc ça change.
Toi t'as les cheveux longs,
ah ouais, tant que je peux, je maintiens. Puis il y a un petit côté, on peut se moquer de nous-mêmes. Hein, quand on se dit qu'on peut encore les avoir à pas loin de 40 ans, les cheveux longs, tu vois, t'es encore un petit côté fierté quoi. On en parlait avec certains collègues chercheurs, on s'est dit putain, on a encore les cheveux longs, on a de la chance quoi. On n'est pas obligé de raser.
Corentin fait partie des chercheurs universitaires spécialisés dans l'étude de la culture et de la musique métal. On appelle ça les Metal Studies. Un de ses terrains d'étude, c'est le Hellfest et son public. C'était l'objet de la thèse qu'il a soutenue en 2015.
Comme le faisaient les anthropologues comme Lévi-Strauss ou Malinowski qui allaient sur leur terrain dans des sociétés primitives, j'ai fait la même chose dans le métal, donc j'y étais déjà un peu, donc c'est un peu triché, mais il fallait vraiment que je retourne vivre à 100% dans la musique métal, donc j'y ai passé des années, le Hellfest, mais plein d'autres festivals à côté, et le but c'était de récolter plein d'observations, de pouvoir vraiment décrire ce qui s'y joue, ce qui t'amène à plein de questionnements. Ça t'amène à vraiment questionner. Ben moi, ce qui m'a questionné le plus, c'était sur le Hellfest, le phénomène du religieux qui était hyper présent. C'est-à-dire qu'on emprunte au religieux à tous les niveaux. On a un vocabulaire du religieux, on parle de pèlerinage, on a des mausolées pour nos artistes disparus. Donc, on a plein de choses observées. Puis après, ça a donné lieu à plein d'entretiens, aussi bien avec des artistes qu'avec des festivaliers, pour comprendre ce qui s'y jouait. Donc, avec une méthode vraiment d'entretien semi-directif, c'est-à-dire vraiment minimum de questions, maximum de discours de l'interrogé pour voir ce qu'il va développer comme idée, comme registre de vocabulaire, et puis porter une analyse dessus après.
Son hypothèse de travail, c'est que le rapport qu'entretient le public avec le Hellfest est très proche de celui des pèlerins avec Lourdes, La Mecque ou Compostelle. Métalleux et religieux, même combat.
J'ai commencé à lire sur les pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, à lire sur le pèlerinage de Lourdes, sur le pèlerinage à La Mecque, et tu te rends compte qu'en fait, pour les cathos, quand ils vont à Lourdes, t'as la même organisation que quand tu vas te taper un Hellfest. Mais vraiment, à 200%, on est vraiment sur cette logique-là. C'est-à-dire que tu prépares ton truc, donc tu connais forcément des potes qui sont allés avant toi, ça c'est clair, ou des gens de ta communauté qui l'ont fait et qui disent « c'est génial, il faut le faire, ça fait partie de ton identité en tant que cathos ou en tant que métalleux ». Donc t'organises, donc tu commences à prendre les programmes, à regarder où est-ce que tu peux loger, avec qui tu peux faire le voyage, parce que t'as certainement des gens de ta communauté qui vont faire la même chose. Tu t'organises ton truc jusqu'au moment où tu y vas et tu sais que tel jour il y a une cérémonie à telle heure, donc chez nous c'est un concert. Donc tu sais qu'à 10h du mat t'as la petite cérémonie, que tu peux aller toucher ta petite grotte en pensant qu'il y a des trucs. Nous on va toucher un grand Lémi, ou alors on va toucher un arbre bizarre, ou alors si on est très chaud on va toucher la porte du Kingdom of Muscadet parce qu'on va toucher le bar derrière pour aller boire un coup. On a remplacé le vin par la bière chez nous, hein, généralement, ou par le muscadet local, ce qui permet quand même de faire de l'économie locale aussi, c'est vachement bien. Et ça se prolonge toute la soirée avec des gens du même groupe social, en fait. Et tu vis une expérience un peu mystique qui va se refermer à la fin de ton festival. Et après, tout le reste, c'est un peu le côté revival, c'est qu'est-ce que t'en ramènes. Si on va à Lourdes, c'est un carnage maintenant, Lourdes. Devant le site, en fait, il y a 75 magasins qui vendent toutes les merdes avec une Sainte Vierge dessus, et il faut l'acheter parce que ça fait partie d'un truc que t'as acheté, qui a une place beaucoup plus importante parce que tu l'as acheté sur place et que tu l'as pas acheté en dehors. Et après, c'est l'état d'après, c'est quelle identité t'as, quelle identité ça te donne de l'avoir fait par rapport à ton groupe social. Et nous, c'est pareil, quoi. Enfin, revenir avec un petit bracelet, déjà, on peut même montrer à tout le monde qu'on l'a vécu, et en plus, on n'est pas le même métalleux qu'on l'ait fait ou pas, et le nombre de fois on l'a fait, quoi. Parce que plus tu l'expérimentes, plus tu as une valeur symbolique forte dans ta communauté de l'avoir fait plusieurs fois. Donc on est vraiment sur une analogie du religieux à tous les niveaux et on est vraiment sur un pèlerinage à part entière.
Bon, le Hellfest, ça fait pas non plus des miracles. C'est pas en y allant que tu vas faire baisser tes gammes AGT. En revanche, si je comprends bien, on n'est quand même pas loin de la rencontre divine.
Avant, les dieux, c'était nos artistes. Et puis là, aujourd'hui, le Hellfest, il prend la même place, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Hellfest, c'est une part de notre identité, c'est une part de notre culture. C'est un lieu d'entre-soi, les gens ils achètent sans connaître les groupes, ils s'en foutent en fait, t'as même plus besoin d'affiches, tu te mets, c'est ce que disent tous les gens qui achètent leur place. On s'en tape, on sait qu'il y aura des groupes qui vont nous plaire. Donc en fait, limite, l'affiche c'est un bonus. Par contre, vivre un truc, une expérience entre nous, mystique, d'entre-soi, il faut le faire.
Dans la grande famille du métal, se retrouver entre métalleux et métalleuse est super important. Une des explications avancées par les chercheurs, c'est que lorsqu'on interroge les Français sur leurs goûts musicaux, le métal fait partie des genres les plus détestés. Donc, forcément, quand on aime, ça rapproche.
On n'en ressort jamais, c'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on y est, on y reste, quoi. Enfin, que ce soit moi comme le public, hein, je pense que là, quand tu vois la moyenne d'âge au Hellfest en ce moment, c'est quand même pas des... Il n'y a plus de jeunes, d'ailleurs, c'est plus des teenagers, on est tous plutôt des vieux de la vieille, on est là depuis au moins 20 ans. Alors, on en voit, je sais pas, les moins de 25 ans, ça doit représenter quoi, 7% du public, même pas. Donc non, on a tous chopé le virus à un moment, on n'est jamais reparti. Donc, contrairement à toutes les autres musiques actuelles, généralement, c'est un engagement qui est hyper fort et qui dure toute une vie. Je crois que la grosse différence, c'est que tu vois, les autres se cantonnent. T'as pas mal de musique actuelle qui se cantonne. T'as la production sonore, tu la consommes. T'as un effet de mode avec une industrie derrière qui va te faire, je sais pas, une génération de boys band qui est morte dès qu'il y a eu un peu moins de thunes à faire. La tectonique, on est débarrassé. Le hip-hop, c'est une grosse économie, mais on voit bien qu'il y a aussi des scissions dans les sous-genres. Nous, le problème, c'est qu'on n'a jamais été à la mode. Enfin, on est en train de devenir à la mode, mais il n'y a jamais eu de grosse mode dans le métal. Les années 70, on a eu des Sabbath, des Motorhead. Ça n'a jamais trop percé, en fait, en dehors de notre scène. Et on est vraiment dans une musique un peu en marge du système, et on a besoin. Et en même temps, il y a un sentiment d'appartenance dès lors qu'on se voit, parce que nous, ça suffit pas, la production. Il faut qu'on se rencontre, et généralement, on se rencontre dans l'entre-soi.
Un des meilleurs endroits pour se rencontrer entre métalleux, c'est ici, au Hellfest. Il suffit juste de s'asseoir à côté de quelqu'un pour engager une conversation. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on a croisé Patrick et Kylian, respectivement 58 et 35 ans, en grande conversation devant une bière.
Nous on le fait depuis 2013 avec mon fils.
C'est ton fils?
Ouais. Avant-hier, il y avait ma fille aussi, ouais, qui était là.
C'est vendredi.
Vendredi. Les autres années, il y avait mon autre fils qui venait aussi. Donc c'est une histoire de famille.
Comment t'es tombé dans le métal?
Oh là, tout petit. Au collège, dans les années 74-75. Bah, à l'époque, il y avait Kiss, il y avait Aerosmith, il y avait des gens comme ça. Bah, c'était un peu moins connu à l'époque. Hein. On sortait plutôt de Woodstock, des choses un peu plus... Et puis voilà, on a commencé avec Ten Years After, des groupes comme ça. Et puis petit à petit, on a suivi, et puis on a donné le virus aux enfants. Donc c'est cool. Et
ça, on est tombé dedans parce qu'il nous a poussé, en fait.
J'ai poussé fort. Et bientôt, on pourra venir avec les petits-enfants.
Ouais.
On sera trois générations au Hellfest.
Ça serait peut-être bien que la famille de Patrick et Kylian fasse baisser la moyenne d'âge, parce que pour le moment, le public du Hellfest est gravement en train de vieillir. Depuis plusieurs années, Corentin et ses collègues chercheurs étudient l'âge des festivaliers. En 2019, la moyenne était de 32 ans.
La communauté métal, ça doit être à peu près ça encore. Après, sur le Hellfest seulement, là, de ce qu'on a trouvé cette année avec l'équipe de recherche, donc avec mes quatre collègues, c'est que la moyenne d'âge est montée à 38. Voilà, donc 38 ans et demi. Donc ça, c'est vraiment ta base. On va dire aujourd'hui que t'as un public métal au-dessus de 30 ans, ce qui est très large, et au Hellfest, qui est encore un peu plus âgé. Alors on pourrait l'expliquer par plein de trucs, hein, le prix de la place, la double édition qui coûte un bras, par le fait qu'aussi, les têtes d'affiche, on va pas se mentir, c'est quand même des têtes d'affiche. Si on a écouté ces groupes-là, ça doit pas dater d'hier, a priori. Donc on a le public aussi qui vit, et il y a pas tellement non plus de groupes émergents qui deviennent têtes d'affiche aujourd'hui. Hein. On n'a pas de groupe de moins de 30 ans sur les main stage après 18h. Hein. Et en même temps, tu te dis qu'il faut aller les voir, parce que, un, ça te rappelle ta Madeleine de Proust d'il y a 30 ans, ou alors tu te dis, putain, si je les vois pas aujourd'hui, dans 2 ans on les voit plus. Quoi. Quand on voit la tête des gars de Deep Purple, on est bien conscient que dans 10 ans ils seront plus là. Quoi.
De leur côté, Patrick et Kylian ont trouvé une bonne option, le Hellfest en famille, pour résoudre les conflits de génération.
On a vu les Guns nuls.
On peut peut-être arrêter d'aller voir les vieux groupes, non?
Il y avait Whitesnake, c'était hein, génial. Encore des vieux qui ont la pêche. Ah, heureusement.
Patrick emmène Kylian voir les vieux groupes qui ont fait l'histoire. Et Kylian lui fait découvrir la nouvelle scène.
Juste avant, il y avait Bullet for My Valentine. Il n'écoutait pas trop, il a écouté. On fait des échanges comme ça. Donc là, on vient nous, écouter les vieux groupes parce qu'on se dit c'est la...
Brigitte Bardot, excuse-moi, Brigitte Bardot, elle n'est pas là. Parce qu'en parler des charges, il a comme ça, ça ne devrait pas le faire.
Ce sont des couilles de loup. Oh putain.
Bon, là, on va faire un petit intermède couilles de loup. Je vous explique. Il est assez difficile de mener une interview au Hellfest sans être interrompu toutes les 2 minutes. Et ça, c'est à cause de Miguel.
Ouais, il est marrant.
Tu sais qu'il est marrant, lui, là.
Avec ses couilles, là.
Tu fais quoi avec ça? T'enregistres le bruit ambiant.
Ouais.
C'est ça?
Ouais.
Imaginez-le. Il est grand, il est beau, et surtout, il tient dans une main une longue perche surmontée de deux micros. Ces micros sont coiffés par deux boules, taille balle de tennis, elles-mêmes recouvertes d'un tissu gris et poilu. Ce sont des protections anti-vent, dans le métier on appelle ça des couilles de loup. Et bien sûr, ce sont ces deux boules poilues qui intéressent beaucoup les métalleux.
Un, deux, trois, quatre.
Radio Couilles de Loup!
Est-ce que je peux me permettre? Vous avez très jolies boules.
Ouais, on le fait souvent. Hein.
On peut toucher un peu. C'est très doux. Ouais.
Je caresse les boules. Je répète, je caresse les boules.
Radio Couilles de Loup, 101.8.
Non, pas les boules, recommence.
Miguel, sort les boules.
C'est bon pour les boules.
Radio Couilles de Loup.
Une autre raison du succès de Miguel et de sa cote de popularité incroyable sur le site du Hellfest, c'est que beaucoup de festivaliers l'ont pris pour Thibaut, le preneur de son de Quotidien, l'émission de TMC avec Yann Barthès.
Ouais. Mon but, Miguel, c'est que tu sois plus connu que le mec de Quotidien.
Dans leur reportage sur le métal, il y a un running gag. Systématiquement, des métalleux montrent leurs fesses.
Faut que je m'en demande plus, c'est ça? Mais non.
C'est marrant, mais ça dit aussi quelque chose sur la façon dont ce genre musical est médiatisé. Et ça ne plaît pas à tout le monde.
Je suis désolé, mais tous les médias ne s'intéressent pas à la culture métal de la même façon. J'ai pas envie de montrer mon cul pour savoir que je fais partie de la communauté métal, quoi. Bah, c'est un peu chiant à force, quoi. C'est pas poussé, y a jamais de... on pose jamais de questions de fond, donc montrer son cul à la télé, à un moment... Au départ, en plus, c'est quand même du truc de on s'en fout des gros médias, donc vas-y, prends-nous pour un débile, on s'en tape. Le problème, c'est qu'à un moment, ça fait effet de masse et globalement, on se rend compte que la population qui connaît rien au métal finit par te cantonner, bah... Bon, les métalleux, soit vous êtes bourrés, soit vous êtes sataniques, soit vous montrez votre cul, ou soit vous faites de la musique pipi caca pour jouer devant nos présidents. C'est un peu chiant, quoi.
Là, Corentin fait référence à deux stars de YouTube qui ont lancé un défi à Emmanuel Macron et qui ont fini par organiser un concert du groupe de métal français Ultra Vomit dans les jardins de l'Elysée.
Kiss my ass.
Une autre caractéristique du public métal, souvent assez visible, c'est le look. Et parmi les basiques de l'uniforme, il y a le t-shirt de groupe. Ça permet d'afficher ses goûts musicaux, mais aussi de dire à quelle famille du métal on appartient. Depuis quelques années, il y a une mode, super tendance ici à Clisson, c'est le t-shirt Hellfest.
Le Metalhead adore avoir un sentiment d'appartenance à son groupe. Donc avant, t'as acheté un t-shirt de groupe avec un logo. Après, t'as acheté des t-shirts de tournée où il y avait les dates de tournée. Ta date, généralement, est affichée dans le dos. J'étais à tel concert à Paris. Tu vois, c'est écrit sur le t-shirt. Ouais, mais maintenant, on achète un t-shirt Hellfest parce que le Hellfest est le fait pierre angulaire dans le métal. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Hellfest vend beaucoup plus de t-shirts que les autres festivals de France. Il n'y a pas un seul festival en France où t'as 80% des festivaliers qui achètent au minimum un t-shirt. Chez nous, c'est ça. Hein. C'est 4 festivaliers sur 5, c'est au moins un t-shirt.
Miguel, il a acheté son t-shirt.
Ah ouais, c'est ça.
Obligé.
Puis en plus, c'est cool parce que ça fait travailler une super société nantaise qui fabrique pour tout le monde. C'est la GC à Rosé, je crois. Donc ça, c'est génial parce que c'est vrai qu'en plus, un festival qui fait bosser toute l'économie locale, c'est quand même c'est vachement important. C'était pas fait pour faire une marque au départ, ce festival. Mais c'est devenu une marque à tous les niveaux parce que ouais, tout le monde veut faire partie de l'histoire du Hellfest. Ça fait partie aussi de l'histoire de la communauté métal en France, même en international. C'est devenu en 15-16 ans l'un des plus gros festoches.
Dans le prochain épisode, on vous emmène dans les ateliers de la sculptrice Caroline Brisset et chez les artisans décorateurs de Monique Lamouche. Au programme, ferraille, soudure, et rock'n'roll.